Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de l'un des plus grands mystères du XXe siècle, l'affaire du Pont Saint-Esprit. Pont Saint-Esprit, c'est une petite ville du Gard qui, en 1951, est frappée par un mal mystérieux. En quelques jours, les gens deviennent fous, au point qu'il y en a qui se jettent par les fenêtres et d'autres qui voient du sang qui coule du plafond. Ça fait 70 ans qu'on cherche une explication. La dernière en date est un chef-d'œuvre du complotisme. La CIA aurait réalisé une expérimentation en répandant sur la ville du LSD. Pour débriefer cette histoire de fou, j'ai fait appel à Hubert Delobette, qui a publié « Histoire vraie en Languedoc-Roussillon » aux éditions Le Papillon Rouge. La réalisation de cette histoire est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous emmène au mois d'août 1951, le 16 août exactement, dans une petite ville du Gard, Pont-Saint-Esprit, 4500 habitants sur la rive droite du Rhône. C'est l'été, il fait une chaleur de gueux, et la salle d'attente du docteur Gabaye est pleine à craquer. En été, normalement, il n'y a pas un chat. Et là, c'est dingue, plus une chaise de libre, et des gens debout. Et c'est pareil chez les deux autres médecins du village. Alors qu'est-ce qu'ils ont, tous ces gens?
Oh, mais j'ai des frissons, docteur, et comme des bouffées de chaleur. Et puis viennent de ces mal au ventre. J'ai beaucoup vomi, hein.
Le docteur leur prend la température, 35 degrés. Ça ressemble à une intoxication alimentaire. Et quand il leur demande ce qu'ils ont mangé et où ils ont mangé, il n'y en a pas un qui raconte la même histoire. Pas un. Il y en a qui ont mangé chez eux, d'autres à l'hôtel, des qui ont mangé de la viande et d'autres des légumes. Ils n'ont pas non plus fait leurs courses au même endroit. Il n'y a aucune logique. Et le lendemain, rebelote, en pire. Les trois docteurs de Pont-Saint-Esprit voient défiler, écoutez bien, 200 personnes dans la journée. Et maintenant, en plus du reste, les gens se plaignent d'une espèce de fébrilité, d'hyperactivité, parfois doublée d'hallucination. Et le jour d'après, le troisième jour, ça devient carrément dramatique. À 3h du matin, le docteur Gabaye est appelé en urgence dans une ferme.
Allô? C'est mon Félix, docteur. Ça va de mal en pis. Il me fait peur, docteur.
Ah ah, expliquez-moi ce qu'il y a exactement.
Je sais pas. Il se tord dans tous les sens. Il délire. On comprend rien à ce qu'il dit. Il a le diable à l'intérieur.
En pleine nuit, le docteur Gabaye va donc sur place et il trouve Félix tétanisé, le regard vide qui fixe le plafond.
Je vais le faire hospitaliser. J'appelle une ambulance.
Trop tard. Félix n'en a plus que pour quelques heures. Mais c'est le 9e jour que ça devient cataclysmique. Dans la nuit du 25 au 26 août, les gens du coin appellent cette nuit-là la nuit de l'apocalypse. Une nuit de folie collective. Depuis le début, les malades les plus graves ont été emmenés à l'hôpital de Pont-Saint-Esprit. Eh bien, en pleine nuit, les malades se mettent à sauter par la fenêtre. Il y en a un qui dit
« Regardez, je suis un avion, je vole !»
Il se lève et il saute par la fenêtre. Et évidemment, il se casse la cheville. Ça ne l'empêche pas de se mettre à courir comme un lapin. Et après, c'est une dame de 70 ans qui saute elle aussi par la fenêtre. Et partout dans les chambres et les couloirs, c'est le chaos, les malades déambulant, délirant à voix haute.
J'ai des serpents dans le ventre. Ma tête est en cuivre. Mon cœur est en train de tomber.
Des propos sans queue ni tête. Au total, 50 malades de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit sont devenus complètement dingos. Et il n'y a pas que l'hôpital qui est touché. Pendant toute cette nuit de l'apocalypse, la police et les pompiers reçoivent des appels au secours.
Allô? Mon père est barricadé dans la maison. Il tire sur des ennemis invisibles. Alors, figurez-vous que ma mère se jette contre les murs. Elle s'est cassée les côtes.
Un cauchemar qu'on retrouve le lendemain, évidemment, à la une des journaux, qui publie des photos d'habitants aux yeux exorbités, aux lèvres pendantes, avec pour seule explication, ils ont le diable au corps, ou ils sont possédés. Mais qu'est-ce qui se passe à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, durant cet été 1951? Qu'est-ce qui se passe? Une première réunion de crise est organisée à la mairie 2 jours après l'apparition des symptômes. Les 3 médecins de Pont-Saint-Esprit sont là. Et ils ont une piste.
Moi, si vous voulez mon avis, c'est le pain, hein? C'est le pain qui les rend fous.
Le pain, parce que c'est le seul point commun entre toutes les victimes de ce mal étrange. Elles ont mangé du pain de chez Roche-Briand, le meilleur boulanger de la ville. Le maire est à la manœuvre.
Bon, dans l'immédiat, moi, je propose qu'on ferme toutes les boulangeries. Hein, toutes, hein, pas que celles de Roche-Briand. Hein. Et puis on va faire des prélèvements de farine et les envoyer au laboratoire. Et puis on verra bien.
En rentrant chez lui ce soir-là, après la réunion, le docteur Gabaye croise des dizaines d'illuminés dans les rues. Des zombies, le regard vide. Il va se coucher. Son téléphone sonne.
Allô? Docteur? C'est ma fille. Elle est devenue complètement folle. Elle dit que du sang coule du plafond et qu'il y a des araignées dans ses cheveux.
C'est le lendemain matin que le docteur apprend la mort de Félix, le fermier. C'est le premier mort de cette histoire. Il y en aura d'autres. Mais maintenant qu'il y a un mort, l'affaire devient judiciaire. Et le juge ordonne l'autopsie du corps de Félix. Le légiste prélève le contenu de son estomac et l'envoie dans un laboratoire de toxicologie à Marseille. On va savoir. En attendant, le lendemain matin, les gens découvrent les boulangeries fermées.
Ah, c'était donc ça! C'était le pain! Le pain est empoisonné!
Et le pain en 1951, 6 ans après la fin de la guerre, c'est le produit de base. On en mange, en France, 1 à 2 kilos par jour. Le 22 août, le journal Le Monde écrit « La population qui ne veut plus manger de pain a fait des achats massifs de biscottes. Et on n'en trouve plus un seul paquet à Pont-Saint-Esprit. C'est à peu près à ce moment-là qu'un professeur de la faculté de médecine de Montpellier émet une hypothèse. Et si le mal venait de l'ergot de seigle? C'est un champignon parasite du blé.
Moi, je pense que c'est ça. C'est une maladie qui sévissait au Moyen-Âge, l'ergotisme. Les gens, à l'époque, l'appelaient le feu sacré ou le mal ardent. C'était les mêmes symptômes. Le corps brûlant, des douleurs abdominales, des hallucinations, de l'agressivité. Et on a mouru, hein. Et si vous voulez vous renseigner, allez voir le tableau du peintre Jérôme Bosch, La Tentation de Saint-Antoine. Tout est dedans.
Le docteur Gabaye court chercher un livre sur Jérôme Bosch à la bibliothèque. Le tableau est stupéfiant. Il montre un village en proie aux flammes. Et au milieu, des hommes monstrueux, les membres gangrénés, les yeux écarquillés, des fous. C'est troublant. C'est très troublant. Le tableau ressemble à la nuit de l'Apocalypse. Alors, renseignement pris, la dernière épidémie d'ergotisme a eu lieu au 19e siècle en Russie. Mais depuis, la maladie a disparu. Alors est-ce qu'elle reviendrait comme ça,
À Pont-Saint-Esprit? En plein mois d'août? En attendant, il y a 2 morts de plus. Et ça fait donc 3 morts. Là-dessus, le 28 août, tombent les résultats des analyses effectuées par le labo de Marseille sur les viscères de Félix, la première victime. Eh bien, le professeur de médecine avait raison. Ça serait bien l'ergot de seigle. La farine du boulanger Rochebriand aurait été contaminée par de l'ergot de seigle. Au moins, on a une explication. Et donc, le juge d'instruction demande au commissaire Sigaud de la PJ de Marseille de se mettre sur le coup. Et la première chose que fait Sigaud, c'est de convoquer le boulanger Rochebriand. Vu par la presse, ça donne « Arrestation du boulanger qui a pétri le pain de la mort ». Alors, monsieur Briand, il y a un problème avec votre farine, semble-t-il. Mais moi, j'ai rien fait. Ma propre femme a été empoisonnée. S'il y a un problème, c'est du côté du fournisseur. C'est celui qui me vend la farine. C'est là qu'il faut chercher. Pas chez moi. Il n'a pas tort. Et le commissaire s'attaque donc à la filière de la farine en France, 6 ans après la guerre. Et il découvre tout un monde dont sans doute il ignorait tout. Le blé après la guerre. C'est cher et c'est précieux. On a donc créé l'Office national des céréales, dont le rôle est de stocker et de livrer le blé aux 10 000 meuniers de France, qui ensuite le transforment en farine et l'expédient enfin aux 53 000 boulangers du pays, dont Rochebriand. Voilà comment ça marche. Et donc le commissaire commence par le haut, l'Office central des céréales. Allô? Bonjour, commissaire Sigaud de Marseille à l'appareil. Dites-moi, je cherche à identifier le meunier qui a livré de la farine à la boulangerie de Monsieur Rochebriand à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Je suppose que vous n'allez pas pouvoir me répondre de suite, mais est-ce que vous pensez être en mesure de me trouver la réponse?
Effectivement, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais je vais vous répondre, hein, sans problème.
Et le lendemain, le commissaire obtient l'adresse d'un meunier du Poitou et l'information que ce meunier a déjà eu des plaintes. Il est content. Il le dit tout de suite à la presse.
Mesdames et messieurs, je crois qu'on peut dire que l'affaire est presque terminée.
Ah, c'est Marseillais. Toujours à se vanter. Et en 1951, on n'en est pas encore à la mondialisation. Mais vous allez voir, ça commence. Car la farine qui sert à fabriquer le pain à Pont-Saint-Esprit vient d'un meunier de Saint-Martin-de-la-Rivière, dans le Poitou, à 600 kilomètres. Le commissaire fait le déplacement, et quand il va toquer à la porte, il pense tomber sur une tête de criminel des formations professionnelles. Et il tombe sur la tête d'un meunier, enfariné. Un meunier qui a 3 gosses. Et qui comprend rien à ce qui lui arrive.
Je comprends pas. Moi, j'ai préparé le blé comme d'habitude. S'il y avait quelque chose de dangereux, ça viendrait du grain, non? Et donc de l'office. C'est pas de ma faute, hein?
Peut-être. N'empêche qu'il est arrêté sur le champ et que le lendemain, sa photo s'affiche en grand dans le journal.
Monsieur, je vais vous poser une question. Réfléchissez bien à la réponse. Êtes-vous certain que vous n'avez moulu que du blé qui provienne de l'Office des céréales? Est-ce que c'est sûr de sûr?
Le meunier est un peu embêté.
Non. L'autre jour, le boulanger du village, il m'a porté du blé qu'il avait. Alors je l'ai moulu, quoi. Et je l'ai rendu sous forme de farine. Bien. On y vient. Mais c'était juste pour lui. J'ai donné toute la farine de blé que j'avais. J'ai pas mélangé, je suis pas fou. Ah bon?
Et pourquoi donc, dites-vous, je ne les ai pas mélangés, ces deux farines? Ben, je vous dis, je suis pas fou. Les grains des agriculteurs locaux, je sais bien qu'il n'y a pas que du bon. Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir du seigle dedans?
Et là, le meunier hoche la tête. Oui, il pourrait y avoir du seigle. Et donc le commissaire va voir tout de suite le boulanger qui lui a porté son blé.
Bah ouais. Ouais, c'est vrai, je lui ai porté du blé à moudre. Ça se fait par chez nous. Mais à mon avis, il a forcément un peu mélangé les farines, hein. C'est pas possible de pas mélanger.
Et après plus de 10 heures d'interrogatoire, le meunier finit par avouer que oui, il a sûrement mélangé les farines. Et ben voilà, le commissaire Sigaud peut fanfaronner, il a bouclé son affaire en moins d'une semaine. Le problème, c'est que 2 mois plus tard, tombent les analyses d'un laboratoire militaire de haut niveau de Marseille, qui a analysé et la farine du boulanger Rochebriand et son pain.
Ah, nous sommes formels. Il n'y a aucune trace d'ergot de seigle, ni dans le pain, ni dans les farines.
Il faut donc relâcher le meunier. Et l'enquête reprend à zéro. Après la nuit de l'apocalypse, il n'y a plus d'explication. Depuis 2 mois, on dit que c'est le pain, et maintenant, ça n'est plus le pain. Alors qu'est-ce que c'est? Répondre à la question devient urgent. Ces dernières semaines, il y a eu 4 morts de plus. Ça fait 7. Alors faute de réponse, les autorités essayent maintenant de minimiser les choses. Elles invoquent par exemple l'âge des victimes. La plupart avaient 70 ans.
70 ans? Ils étaient fragiles, hein? Disons que l'empoisonnement n'a fait qu'accélérer la fin.
On écrit même dans un rapport public que Félix, le pauvre Félix, le premier mort, était alcoolique.
Et Joseph alors? Il était alcoolique? Il était fragile peut-être?
Joseph, c'est effectivement un cas très intéressant. Joseph Moulin, c'était un gaillard de 24 ans. En quelques heures, il est devenu complètement cinglé. Et il est mort d'un arrêt cardiaque après des jours de convulsion. Il n'était pas fragile, Joseph. Et il aurait été intéressant de pratiquer une autopsie sur son corps. Mais, allez savoir pourquoi, le juge d'instruction refuse. Et ça va participer au fantasme général.
On nous cache quelque chose.
Du coup, la famille de Joseph décide de faire réaliser sa propre autopsie, privée. Ses parents demandent qu'on analyse le contenu de son estomac. Mais le problème, c'est que juste après, le rapport d'autopsie disparaît, figurez-vous. Et le bocal qui contenait les prélèvements aussi.
On nous cache quelque chose.
Le journal La Marseillaise va même jusqu'à écrire « On veut étouffer l'affaire de Pont-Saint-Esprit ». Et à partir de là, tout le monde a sa théorie. C'est le grand défilé des fantasmes et du complot.
À mon avis, c'est le gouvernement, hein? Ils ont voulu tester un nouveau gaz lacrymogène pour les CRS. C'est pour réprimer le mouvement ouvrier. Mais non! Ce sont les Américains. Ils ont utilisé notre ville pour une expérimentation. Mais t'es fou! C'est pas les Américains! C'est les Soviétiques!
Et patati, et patata, il y en a même pour raconter.
J'ai entendu dire qu'on aurait vu un sous-marin américain remontant le Rhône fin août.
Et dans la foulée, tous les zinzins de la planète débarquent à Pont-Saint-Esprit. Il en arrive par dizaines, de toute la France, chacun avec leur théorie bretzing. Des radiesthésistes, par exemple, débarquent avec leurs pendules et se mettent à chercher des ondes maléfiques. Et le maire, 6 ans après la guerre, revit le bonheur des dénonciations. C'est Rochebriand, C'est le facteur. Ce sont les gitans. La mère du jeune Joseph Moulin accuse, elle, un clan corse. C'est la braderie du grand n'importe quoi. Et c'est dans cette atmosphère de paranoïa générale que le 15 décembre 1951, le téléphone sonne chez le docteur Gabay. Allô ? Docteur Gabay à l'appareil.
Docteur ! Docteur, ça y est ! Ça recommence !
L'appel vient de chez les religieuses de l'Hôtel-Dieu. On parle de 20 nouveaux malades. 20 ! C'est la supérieure des religieuses de l'Hôtel-Dieu qui a appelé le docteur Gabay. Les nonnes auraient contracté la mystérieuse maladie. Dès qu'il raccroche, le docteur, évidemment, se précipite au monastère.
Ah bonjour, docteur. Suivez-moi, c'est par là.
Et le docteur tombe effectivement sur 20 nonnes malades. Mais ça n'est qu'une intoxication alimentaire. Elles ont mangé des quenelles de brochet pas fraîches. Rien de plus. En quelques jours, elles seront sur pied. Le journal qui a titré ce matin « Des nonnes possédées à cause du pain maudit » se couvre de ridicule. Enfin, pas tout à fait, parce que les gens pensent qu'on leur ment sur les nonnes comme sur le reste.
On nous cache quelque chose.
Et le grand délire ne s'arrange pas avec l'épisode qui va suivre. Le 3 janvier 1952, la police et les agents des fraudes en reviennent au pain empoisonné. Parce que les victimes ont tout de même en commun d'avoir mangé le pain du même boulanger, Roche-Briand. Alors ça n'est peut-être pas l'ergot de seigle, comme on l'a pensé dans un premier temps, mais c'est peut-être quand même le pain. Les autorités lancent donc une grande opération dans tous les moulins de France, 158 perquisitions simultanées. Et grâce à l'affaire du pont Saint-Esprit, la France des années 50 tombe sur un scandale alimentaire. Dans les moulins, les inspecteurs trouvent des machines allemandes absolument illégales en France. 74 machines au total sont saisies. Ces machines servent à blanchir les farines trop grises. Eh oui, le pain blanc à l'époque, c'est rare, et donc c'est plus cher, ça rapporte plus. Alors pour blanchir les farines, les machines en question utilisent un composé chimique qu'on appelle l'AGEN. C'est un scandale énorme. Les Français découvrent qu'on tripatouille les farines de leur pain pour les rendre plus blanches. 1952. Vous voyez que le phénomène n'est pas nouveau. Et la gêne déclencherait des réactions, des symptômes assez similaires à ceux de Pont-Saint-Esprit. Ben ça y est, on a trouvé. Ah, eh ben non, parce que le juge d'instruction, figurez-vous, se sent un peu dépassé par les résultats de ses investigations. Vous vous rendez compte, à cause de lui, à cause des événements de Pont-Saint-Esprit, on est en train de faire peser une suspicion sur le pain français, sur la baguette française, presque un symbole national. Alors est-ce qu'il peut, lui, le petit juge du Gard, jeter le discrédit sur le pain en France? Eh ben, il ne s'en sent pas le droit. Et peut-être a-t-il subi quelques pressions. Toujours est-il qu'il rend une ordonnance de non-lieu générale. On n'ira pas plus loin dans ce scandale. Les 74 meuniers truqueurs ne seront pas poursuivis. Circulez. Il n'y a rien à voir.
On nous cache quelque chose.
Mais le sommet de l'incompréhension populaire, c'est quand en juillet 1954, 3 ans après la nuit de l'Apocalypse, le juge d'instruction annonce qu'il referme le dossier. Il prétend, et il est bien le seul, que le mystère est éclairci. il a trouvé un coupable. Le panogène, un composé chimique qui contient du mercure et qui aurait contaminé un sac de farine. Un seul. Et les habitants de Pont-Saint-Esprit n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur ce sac. C'est un accident, c'est la faute à personne. L'enquête est terminée. Mais alors, qui va indemniser les victimes, les familles des morts? Eh bien personne, personne. À l'heure où je vous parle, les victimes n'ont jamais été indemnisées, jamais. Et du coup, comment voulez-vous reprocher aux gens d'adhérer aux théories les plus foireuses, de tomber dans le complotisme? Cette histoire est la preuve absolue que quand la justice ne fait pas son travail, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Alors il faut absolument que je vous raconte la théorie foireuse surgie récemment, en 2009, sur cette affaire du Pont Saint-Esprit.
C'est à cause de la CIA. Ce sont les Amerlocs. Ils se sont servis de nous comme des animaux de laboratoire. Ah ben je vous jure, on a la preuve.
Et donc il faut que je vous raconte comment récemment, en 2009, 58 ans après, est apparue une nouvelle théorie, la caricature de la théorie complotiste. Le genre de truc qu'on a envie de croire parce que c'est tellement fou que ça devient séduisant. Pont-Saint-Esprit aurait été aspergé de LSD par la CIA, par pulvérisation aérienne, par des avions. Je vous ai prévenu, c'est du lourd. C'est un journaliste américain indépendant, Hank Albarelli, qui en 2009 a jeté ce pavé dans la mare. Il explique que dans les années 50, les Américains, en pleine guerre froide, travaillaient sur la mise au point d'outils de manipulation mentale, en utilisant des psychotropes, et notamment le LSD. Il raconte qu'à l'époque, fin 1951, le fameux docteur Gabay, vous vous souvenez, le médecin de Pont-Saint-Esprit, a envoyé des échantillons de pain et de farine à un laboratoire indépendant, le laboratoire Sandoz, en Suisse. Et ce qu'il ne savait pas, d'après ce journaliste américain, c'est que le laboratoire Sandoz n'était pas vraiment neutre sur le sujet. Car 8 ans plus tôt, Sandoz, sous la houlette d'un certain professeur Hoffman, aurait mis au point une substance extraordinaire qui provoquerait des hallucinations très proches de celles qui ont frappé Pont-Saint-Esprit. Et cette substance serait du LSD, une drogue à base, tenez-vous bien, d'ergot de seigle. Notez bien que je suis d'une prudence de Sioux, Je ne vous raconte tout ça que pour rigoler un peu, pour se moquer. Surtout, ne prenez pas ça au sérieux. D'après ce journaliste américain, cet Albert Hoffman, lui-même, inventeur du LSD, a examiné en personne les prélèvements envoyés par le docteur Gabay. Et il a forcément reconnu sa molécule, le LSD. Mais il n'en a rien dit dans son rapport au docteur Gabay. Il a menti, parce qu'il était juge et partie. C'est ça, sa théorie, qui n'est nourrie, vous le remarquerez, par aucune preuve. La seule preuve qu'apporte le journaliste Hank Albarelli, ce sont des documents déclassifiés de la CIA, qui raconte qu'en 1953, un chimiste nommé Frank Olson, qui travaillait pour les services secrets américains sur des drogues destinées à la manipulation mentale, a consommé du LSD et s'est jeté par la fenêtre de son hôtel au 13e étage, comme les malades de Pont-Saint-Esprit. Il était peut-être dépressif, le monsieur, ou bipolaire, ou que sais-je, mais non. Pour le journaliste Amerloc, c'est la preuve qu'en 1951, les Américains ont pulvérisé du LSD au-dessus de Pont-Saint-Esprit. Elle est séduisante, cette théorie. Alors je vais vous laisser avec ça. De toute façon, j'ai pas mieux. Mais je vous en supplie, soyez raisonnable. Je vous fais confiance,
Thank you.
Voilà donc pour cette incroyable histoire que nous allons débriefer maintenant avec Hubert Delobette, qui est là au téléphone, auteur de Histoire vraie en Languedoc-Roussillon aux éditions Le Papillon Rouge, qui raconte entre autres cette affaire. Et je précise d'ailleurs, monsieur Delobette, parce que ça peut nous donner des indications sur votre regard, que vous êtes un scientifique de formation, ingénieur en biotechnologie. On peut peut-être commencer par la piste américaine, la dernière, qui paraît totalement folle. La CIA aurait expérimenté sur les habitants de Pont-Saint-Esprit un produit à base de LSD qui aurait été répandu par avion. Est-ce que vous-même, vous lui prêtez une oreille attentive à cette histoire, à cette théorie ou pas ?
Non, pas du tout. Moi, je trouve comme vous, c'est-à-dire c'est l'émission est très sympa à la faire avec tous ces clins d'œil. Non, moi je crois que c'est vraiment dans la thèse du complot. C'est un sujet avec plein de symboles, Le Pen, la guerre n'est pas loin. Il y a le LSD au milieu, donc c'est vrai que il y a un terreau favorable. Toutes ces rumeurs, ces complots. C'est une histoire ridicule, bon, qui a été lancée par ce journaliste indépendant américain, là, le dénommé Alvarelli, mais non, là, j'y prête aucun crédit.
Il faut dire quand même qu'il y a une base qui est vraie. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à cette époque, il y a un chimiste qui s'appelle Frank Olson, qui a dirigé des travaux sur des outils de guerre chimique, et c'est vrai que cet homme-là s'est jeté par la fenêtre. Ça a été confirmé par les autorités américaines.
Tout à fait. De même que c'est vrai que l'armée américaine s'est intéressée à cette affaire de Pont-Saint-Esprit, parce que forcément, à l'époque où on s'intéressait à la guerre bactériologique, ça pouvait être une piste pour eux d'utiliser cet argot de seigle à grande échelle, donc pourquoi pas. On retrouve effectivement dans les archives des études sur ce sujet de Pont-Saint-Esprit, mais de là, après, à imaginer qu'ils aient utilisé avec un avion pour larguer sur le village, ça me paraît délirant. Et d'ailleurs, il y a un complot qui circule en ce moment sur le fait qu'il y a des avions, vous savez, on voit les traces des traces blanches des avions dans le ciel, et certains ont propagé la rumeur selon laquelle ces rejets d'avions, il y aurait des produits chimiques largués, donc on est un peu là sur le même registre, donc j'adhère pas du tout. Hein.
Alors qu'au fond, il suffit de revenir à la réalité, qui est que seuls les gens qui ont mangé du pain de Roche-Briand ont été touchés par ce mal. Et donc il n'est forcément pas venu par les airs, il est venu par la consommation de pain, ça paraît assez clair.
Oui, parce que de toute façon, s'il y avait eu un largage par avion, toute la population aurait été touchée, alors que là, c'est dès les premiers jours d'enquête, dès que la maladie se déclare, on voit très bien que les gens touchés appartiennent à une même famille, ont consommé du pain dans la même boulangerie, cet aliment devient le dénominateur commun de la maladie, de la naissance, de la pathologie, donc là, c'est absolument certain que ça vient du pain.
Première question, Hubert Delobette, est-ce qu'à votre connaissance, cette histoire est connue aujourd'hui encore à Pont-Saint-Esprit ?
Alors, elle est connue depuis peu, parce qu'il y a eu cette fameuse théorie là de la CIA, puis il y a eu quelques téléfilms sur le sujet, c'est un sujet qui est redevenu un peu à la mode ces dernières années, mais pendant longtemps elle a été occultée parce que c'était une affaire finalement qui a beaucoup peiné et qui a fait du mal à la ville.
À l'image de la ville, vous voulez dire ?
Oui, à l'image de la ville. D'ailleurs, à tel point que encore récemment, il y a une émission une chaîne de télévision qui m'a proposé d'aller faire une petite émission à Pont-Saint-Esprit, et la ville n'a pas voulu donner l'autorisation de tournage sur ce sujet. Donc finalement, cette affaire du pont maudit, je crois que maintenant les gens veulent oublier, tirer un trait là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et puis déformées et quelquefois de manière un peu ridicule. On en revient avec, par exemple, cette histoire de la CIA qui aurait fait du largage de LSD dessus sur la ville.
À mon avis, ils auraient plutôt intérêt à exploiter cette histoire. Je veux dire, c'est un mythe extraordinaire pour une ville que d'avoir vécu cela et que le mystère continue à planer, non ?
Oui, mais en fait, comme il y a finalement vous le dites dans l'émission, les gens n'ont jamais été indemnisés, les victimes. On n'a jamais su finalement exactement quelle avait été la cause de cette maladie à grande échelle. Et je crois que finalement, les gens sont, les spiripontins, c'est le nom des habitants de Pont-Saint-Esprit, en sont frustrés, en sont déçus, amers. Et je crois qu'ils en veulent un peu finalement au reste du monde. Mais vous avez raison, moi je trouve que c'est une affaire.
Enfin, moi je serais amusé. Je ferais un musée avec une visite guidée, on irait à l'hôpital. Non mais c'est les années 50, c'est pas avant-hier quoi.
Ouais, mais vous savez, les gens voilà, sont encore du rancœur. Cette histoire les a, voilà, les a marqués.
On peut comprendre. Alors on va reprendre les explications les unes après les autres. La première, on a l'impression que c'est celle qui tient le mieux au fond. L'ergot de seigle. Pour expliquer peut-être que dans les années 50, les farines n'ont pas la qualité qu'elles ont aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de meuniers, beaucoup moins de contrôle. Et l'ergot de seigle est une maladie vraiment connue du blé.
Oui, oui. Moi, c'est effectivement la théorie que je soutiens, l'ergot de seigle, puisque, pour résumer rapidement, c'est un champignon qui se développe à la faveur d'une humidité importante sur le seigle et qui déforme légèrement l'épi, qui lui donne une forme d'ergot de coque, d'où son nom. Et cet ergot de seigle, donc, contient des alcaloïdes proches du LSD, hein, et donc, qui, lorsqu'elles sont ingérées, donnent des hallucinations collectives, enfin, quelque chose de terrible. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas des outils d'analyse performants comme aujourd'hui. Et maintenant, on prouverait facilement ce que c'est l'ergot de seigle. Mais bon, à l'époque, c'était encore mal connu, même si c'est une histoire qui date depuis le Moyen-Âge, puisque cette maladie s'appelait donc le feu de Saint-Antoine, ou encore donc la maladie de l'ergot, et au Moyen-Âge, qui avait provoqué des pandémies terribles. Hein. La ville de Cabré, par exemple, disparaît pratiquement de la circulation au XIe siècle, avec 12 000 personnes qui meurent de cet ergot, hein, de cet ergotisme.
Donc je retiens que, pour vous, c'est la piste la plus probable, c'est celle qui semble peu probable, mais en même temps, on est interrogé par une chose, il y a donc un laboratoire militaire de très haut niveau qui analyse la farine et le pain et qui n'en trouve pas la trace.
Et oui, alors ça c'est vrai que c'est le point d'interrogation de cette histoire. Alors moi je pense qu'il y a dû avoir des erreurs d'analyse toxicologiques. Ce laboratoire marseillais a été mis à l'époque sur la sellette. Moi cette histoire elle me fait vraiment beaucoup penser à, on peut faire un parallèle avec l'arsenic. Vous savez qu'à l'époque il y a eu de grandes affaires liées à l'arsenic, l'affaire Marie Besnard, l'affaire Lafarge.
C'est pile l'époque de Marie Besnard là en l'occurrence.
Voilà, et à l'époque, les analyses toxicologiques étaient contradictoires, alors, parce qu'il y avait un petit peu d'arsenic dans le sol, alors on ne savait pas si la dépouille avait été en contact avec le sol et avait pris de l'arsenic, à quelle dose le malade pouvait décéder de l'arsenic, enfin, voilà, les méthodes d'investigation n'étaient pas encore suffisamment poussées, la médecine légale n'était pas encore extrêmement développée, et moi je pense qu'il y a dû avoir des erreurs sur les échantillons, sur la conservation des viscères, donc, en fait, on retrouve tellement de symptômes qui correspondent à ce fameux ergot de seigle moi je pense que c'est la solution à voilà.
Personne n'a jamais posé l'idée qu'aujourd'hui on exhume un des corps des victimes pour faire des analyses.
Mais vous avez entièrement raison. Moi, j'en ai parlé justement avec des médecins, avec des toxicologues, et qui disent qu'il suffirait maintenant, de faire une exhumation et d'analyser le corps de dépouille, et on verrait effectivement si, les malades ont été sont morts de l'ergot de seigle, puisqu'on arrive maintenant, par exemple, sur des corps datant du Moyen Âge, à savoir s'ils sont morts de la lèpre ou de la peste, enfin, avec des analyses extrêmement poussées d'ADN. Donc, on
ça
pourrait maintenant très facilement.
Pas les corps qui ont déjà fait l'objet d'autopsie, parce que faut savoir qu'après une autopsie, on remet tout en vrac et on referme. Donc la conservation n'est pas du tout la même. Mais sur les corps qui n'ont pas fait l'objet d'autopsie, ça serait intéressant aujourd'hui pour résoudre ce mystère d'exhumer un des corps et de procéder à une autopsie 70 ans après, quoi.
Exactement, oui. La famille a voulu le faire dans les années 70, mais en fait, ça leur coûtait assez cher. Ils avaient déjà dépensé pas mal d'argent dans des procès. Et ils ont décidé de pas poursuivre. Mais maintenant,
on va lancer une cagnotte tous les deux.
Hein, allez, on
finance l'autopsie pour résoudre le mystère. Alors après, il y a cette histoire de machine de blanchiment par cette technique dite de la gêne qui utilise du trichlorure d'azote. Ça tient aussi, ça. Ça tient d'autant plus que ça n'a pas vraiment été exploré à son terme, quoi.
Ça tient aussi, mais comme le panogène, enfin, je ne sais pas si vous voulez en parler tout à l'heure de ça.
Ça, c'est encore autre chose, oui.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes dans cette histoire, mais à chaque fois, effectivement, ça, la gêne, il provoque des intoxications graves, un peu comme l'ergot de seigle, mais par contre, il n'y a pas tous les symptômes d'hallucination de ces gens qui se prennent pour des papillons, des oiseaux, de tout ce côté psychologique, psychiatrique, que l'on retrouve avec l'ergot de seigle. Donc, c'est pour ça que, moi, ça m'amène à la mettre de côté. Mais bon, c'est vrai que c'est une piste séduisante aussi.
Séduisante aussi. Alors, la piste qui finalement est retenue par la justice, bien que ça soit sans conséquence pour les indemnisations, c'est celle du panogène, qui est donc un fongicide, qui aurait contaminé un seul sac par accident, et pas de peau. Les habitants de Pont-Saint-Esprit se sont retrouvés avec ce sac chez Roche-Briand.
Ouais, tout à fait. Le panogène, c'est, vous l'avez dit, c'est un fongicide qui a été mis au point dans les années 40 là, par une firme suédoise et qui a une couleur légèrement rougeâtre. Et on a vu effectivement des sacs de farine qui avaient été mis de côté avec ces taches un petit peu rougeâtres et voilà, qui ont été analysées, où on a retrouvé des traces de panogènes. Mais là aussi, quand on questionne, bon, moi, j'ai pas mal travaillé, enfin, questionné des médecins, étudier des thèses de médecine de Montpellier, puisque j'habite à côté. Et là aussi, les intoxications panogènes, ça provoque des vomissements, des troubles gastriques très importants, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Mais encore une fois, là aussi, on ne trouve pas toute la dimension psychiatrique, les dépressions, les gens aussi qui se sentent très bien quand d'un coup des euphories extraordinaires, ou des gens qui se défenestrent parce qu'ils s'imaginent être un oiseau. Ça, on ne le trouve pas du tout avec le panogène. Donc, voilà, encore une fois, c'est sujet à caution.
Alors, on a un juge d'instruction quand même qui se comporte assez étrangement. On a l'impression qu'il se débarrasse du dossier le plus vite possible, que ça lui brûle les mains, quoi. Que c'est la patate chaude, cette histoire.
Bon, là, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, alors moi, je ne veux pas retomber dans la théorie du complot, mais c'est vrai que, y a des échantillons qui ont disparu, il y a effectivement des...
Bon, ça arrive encore aujourd'hui, hein.
Ouais, c'est vrai, on le voit sur des affaires récentes. Mais bon, vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'il y a la dimension importante du pain. On est en 1951, les tickets de rationnement du pain et d'autres produits de subsistance ont été supprimés juste un an auparavant. Donc,
on
peut pas peut-être mettre jeter l'opprobre sur le pain et alors peut-être ça a joué là-dessus. Il y a peut-être des dossiers qui ont été mis de côté pour pas jeter l'effroi dans la population.
Parce que, au final, on aurait la solution de cette histoire. Est-ce que tous les deux, on serait là à la raconter aujourd'hui ? Non.
Non, on la raconterait peut-être parce qu'elle a un caractère assez incroyable avec cette fameuse nuit d'apocalypse.
Le tableau de Jérôme Bosch. Bon, on dit deux mots, c'est du tableau de Jérôme Bosch, parce que moi je l'ai regardé évidemment ce tableau. Il faut un peu d'imagination quand même pour faire le parallèle avec la nuit de l'apocalypse. Hein. Pardon, mais il est allé un peu vite. pas aux yeux, quoi.
Oui, c'est vrai, il faut un petit peu d'imagination, mais bon, on imagine tout ça. Oui, tous ces personnages. Alors c'est quelque chose de très marrant, parce que de très marrant, c'est le cas, j'exagère un peu, mais dans cette maladie qu'on appelle le feu de Saint-Antoine ou le mal des ardents, les malades avaient comme caractéristique d'avoir des sensations intenses de brûlure, des flammes qui les dévoraient. En fait, c'est une maladie extrêmement douloureuse, affreuse, d'ailleurs qu'on retrouve encore en Russie dans les années 20, et qui a touché l'Éthiopie en 2001. Oui, c'est assez récent. Et on trouve dans ce tableau, déjà un peu halluciné, qu'on peut imaginer se sentir brûlé à l'extérieur comme à l'intérieur, dans les entrailles. Quoi.
Je vous remercie infiniment, Hubert Delobette, d'avoir participé au débriefing de cette histoire.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle ce livre dont vous êtes à la fois l'auteur et l'éditeur, Histoire vraie en Languedoc-Roussillon, aux éditions Le Papillon Rouge. Il y en a sur toutes les régions. Hein. Là, c'est Languedoc-Roussillon, mais on a déjà utilisé quelques-uns de ces livres pour raconter une partie de nos histoires. Merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.